9h sur France Culture. Avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La reprise de la dette de la SNCF par l'État à partir du 1er janvier 2020 se fera sans augmentation d'impôts. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, le confirme ce matin au lendemain de l'invitation lancée au syndicat de cheminots par Édouard Philippe à des réunions bilatérales à partir du 7 mai prochain à Matignon. C'est ce que réclamaient les syndicats ferroviaires. Un premier recul, estime ce matin la CGT. Mais l'entourage du Premier ministre a une toute autre lecture. Ces rencontres bilatérales sont un signe d'ouverture, mais certainement pas un renoncement, Louise Baudet.
Le président l'a dit lui-même, no chance. Traduction en français de Matignon, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, quel que soit le quotidien d'une grève qui d'ailleurs s'érode. La porte ouverte aux syndicats serait donc tout sauf un recul. Elle l'est d'ailleurs aux confédérations, reçues les unes après les autres et non à l'intersyndicale de la SNCF. Preuve que Matignon n'agirait pas sous pression. Mieux, sur la fin du statut, l'ouverture à la concurrence, tout ce que les cheminots rejettent, eh bien il n'y a plus rien à concerter, dit-on. Ce cycle-là mené par Elisabeth Borne est clos. Édouard Philippe ne reprend pas la main, non, il passe à un nouvel ordre du jour. La dette, officiellement le seul sujet abordé le 7 mai, et il prévient, les contribuables vont devoir faire un effort supplémentaire. L'entreprise doit se réformer, gagner en productivité, pour que ça ne se finisse pas en impôts, glisse Matignon. Avertissement tout sauf anodin, à l'heure où la hausse de la fiscalité inquiète les contribuables, en dépit des dénégations du gouvernement et du président.
L'Iran et l'accord nucléaire avec Téhéran, forcément au cœur du discours aujourd'hui d'Emmanuel Macron devant le Congrès américain. Au troisième et dernier jour de sa visite d'État aux États-Unis, le président français doit exposer sa vision du monde devant les élus du Congrès. Hier, face à Donald Trump, qui condamne toujours sans appel l'accord signé en 2015 avec Téhéran, un texte désastreux selon le président des États-Unis, Emmanuel Macron a proposé de négocier avec l'Iran un nouvel accord qui pourrait durcir le premier texte et inclure le règlement de la situation politique en Syrie. Donald Trump doit se prononcer sur le sujet le 12 mai prochain. Personne ne sait ce que je vais faire, a lancé hier le locataire de la Maison Blanche. Contour flou donc de ces renégociations, des conséquences incertaines. L'analyse de Didier Combeau, chercheur associé à l'Institut des Amériques, spécialiste des États-Unis et auteur du livre « Polices américaines » aux éditions Gallimard.
C'est des choses qui étaient déjà sur la table, mais il n'est pas du tout certain que l'Iran acceptera une nouvelle négociation de cet accord. Et puis cet accord, il n'implique pas seulement les États-Unis et la France, il implique 6 pays au total, les 5 pays du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Et il n'est pas du tout certain que la Russie et la Chine seront d'accord pour aller dans cette direction-là. Ce qui serait extrêmement risqué, ce serait que les États-Unis se retirent de cet accord. Que se passerait-il dans la région? Est-ce que les autres États continueraient dans cet accord ou non? Est-ce que les entreprises qui ont commencé à faire des affaires en Iran pourraient continuer de les faire? Et quelle serait la situation économique en Iran si cet embargo continue?
Le nucléaire iranien n'est pas le seul enjeu de cette visite d'État du président Macron. On parle aussi des accords de Paris sur l'environnement, les accords commerciaux sur l'acier et l'aluminium notamment. Est-ce qu'en cédant, entre guillemets, sur le nucléaire iranien, c'est une façon aussi peut-être d'obtenir gain de cause dans d'autres dossiers, dans ces dossiers-là notamment pour le président Macron?
Peut-être, mais Trump n'a guère abordé ces dossiers-là. Hein. Il a abordé très rapidement la question du commerce en parlant d'une approche bilatérale, alors que le président Macron a prôné une approche multilatérale dans le cadre de l'OMC. Et puis sur l'accord de Paris, le président Macron l'a mentionné très brièvement, et Trump pas du tout. Et la base électorale de Trump est tout à fait contre cet accord de Paris pour des raisons économiques, hein, bien entendu, parce qu'ils estiment que c'est un accord qui ralentirait l'économie américaine.
Didier Combeau, chercheur associé à l'Institut des Amériques, il répondait à Fiona Mogadam. L'hostilité envers les journalistes de plus en plus marquée dans le monde, c'est le constat de Reporters sans frontières qui publie aujourd'hui son classement annuel mondial de la liberté de la presse. 180 pays examinés, passés au crible. 21 sont désormais placés en situation très grave, catégorie où l'Irak rejoint des régimes autoritaires comme l'Égypte, 161e du classement d'RSF, la Chine 176e ou encore la Corée du Nord, toujours en dernière position. Mais les attaques contre les journalistes gagnent aussi les démocraties occidentales. Les États-Unis, 45e du classement d'RSF, reculent de 2 places. Conséquence, des attaques verbales quasi quotidiennes contre les journalistes depuis l'élection de Donald Trump, le président américain qualifiant lui-même certains médias d'ennemis du peuple. Hostilité également en Europe, en République tchèque, où le président a organisé une conférence de presse avec une fausse Kalachnikov dans les mains, sur laquelle il était écrit pour les journalistes. TF1 et Free ont signé un nouvel accord de distribution globale des chaînes du groupe de télévision pour les abonnés de l'opérateur télécom. Le montant n'a pas été dévoilé. Le temps de ce mercredi 25 avril, variable comme hier, alternant entre grisailles, éclaircies et de faibles pluies. Les températures sont comprises ce matin entre 8 et 16 degrés du nord au sud de l'Hexagone. Cet après-midi, comptez de 14 à 17 de la Bretagne au Benelux, 18 à 22 des frontières allemandes au sud-ouest, 22 à 29 degrés dans le sud-est. C'est la fin de cette édition réalisée avec Brice Garcia. Prochain journal de la rédaction, midi et demi avec Camille Magnard.